La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est dans une cellule de prison que Genet est devenu écrivain, autodidacte, rédigeant pour lui-même, sans penser être jamais publié, des romans beaux et terribles. Il a fait un enfant dans le dos à la littérature française qui ne s'en est pas tout à fait remise. Problème, l'écrivain non plus ne s'en est pas tout à fait remis. Trop vite reconnu et encensé par Sartre notamment. On en a fait un saint et un martyr alors qu'il se voulait voyou. Cette gloire un peu trop lourde l'a peut-être stérilisé du point de vue littéraire, avant sa renaissance par le théâtre, puis par l'engagement politique, comme nous l'avons vu lundi dernier, c'était avec Albert Dichy, lors de notre émission biographique. Et puis demain, nous irons voir du côté sombre de l'écrivain, tel que l'a décrit Yvan Jablonka dans son livre « Les vérités inavouables de Jean Genet ». Que faisons-nous aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, pour parler à la fois du regard de Genet sur les arts plastiques et de la question de la sexualité dans ses textes et dans sa vie, nous sommes avec Agnès Van Nouvong, professeure en études de genre à l'Université de Genève, autrice d'un essai intitulé « Jean Genet, les revers du genre » publié aux presses du Réel en 2010, dans lequel elle évoque les représentations de la sexualité chez Genet. Elle a également dirigé le volume collectif « Genet et les arts », toujours aux presses du Réel, mais cette fois en 2013. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
D'être un enfant trouvé m'a valu une jeunesse et une enfance solitaire. D'être un voleur me faisait croire à la singularité du métier de voleur. J'étais, me disais-je, une exception monstrueuse. En effet, mon goût et mon activité de voleur étaient en relation avec mon homosexualité. Sortaient d'elle, qui déjà me gardait dans une solitude inhabituelle. Ma stupeur fut grande quand je m'aperçus à quel point le vol était répandu. J'étais plongé au sein de la banalité. Pour en sortir, je n'eus besoin que de me glorifier de mon destin de voleur et de le vouloir.
Extrait du journal du voleur, lu par Yvan Moran. Bonjour Agnès Van Nouvong.
Bonjour.
Alors comment est-ce que vous comprenez cette idée que pour Genet, il y a un lien entre le fait d'être homosexuel et le fait d'être un voleur ? Est-ce dans les deux cas une expérience du fait d'être en marge par exemple ?
Oui absolument, Genet c'est un écrivain, un poète, un dramaturge de l'écart, de la différence et puis de la subversion. Il a toujours fait, enfin, puis je pense que ça, il faut commencer par le début. Sa naissance, il était une pupille de la nation, donc un orphelin. L'a d'emblée mis de côté. Ensuite, sa trajectoire parle d'elle-même. C'est l'arsen, la prison, l'enfermement, l'écriture des romans, puis ensuite le retour dans le monde, l'écriture du théâtre. Et tous ces éléments, biographie, ces trajectoires de vie font, fabriquent ce que vous décrivez, cette identité de voyou d'écrivain tel qu'on le connaît.
Et puis ça crée une œuvre qui est dérangeante quand même, ou qui est pour le moins troublante.
Alors c'est ça, Genet c'est l'auteur de la, c'est un auteur éminemment subversif parce qu'il parle d'une chose qui choque, c'est-à-dire la sexualité, l'homosexualité, et il en parle de façon frontale, de façon très crue.
Il n'y a pas d'euphémisation chez Genet, et en même temps il y a une manière très poétique de montrer la sexualité. Donc on est en effet dans le frontal, mais on est aussi dans la sublimation.
Oui, sublimation des corps, sublimation de l'identité, et puis cette fascination pour l'image qu'on retrouve aussi bien dans son cinéma. Je pense à son film qui est un chef-d'œuvre, Un chant d'amour, qu'il a réalisé en 1950. Je pense à toute sa production théâtrale très importante. Je pense à ses essais esthétiques qui vont de Rembrandt à Giacometti.
Et dont on parlera plus particulièrement en deuxième partie de cette émission, Agnès Van Nouwang. Alors, il faut expliquer quand même que le désir chez Genet, la question du désir, la question aussi de l'identification sexuelle, elle est assez complexe. Vous dites que son œuvre esquisse les traits d'une esthétique polysexuée, où le genre sort de sa dimension ontologique et essentialiste. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu et peut-être éclaircir aussi cette phrase-là ?
Alors c'est une formulation un petit peu compliquée, inutilement compliquée, pour expliquer au fond que il fabrique une œuvre qui est aux frontières, qui est toujours à la lisière. Genet, il a toujours refusé de faire partie d'un camp qui serait le camp de la majorité. Il était du côté des opprimés, du côté des homosexuels, du côté des Noirs, des Black Panthers, du côté des Palestiniens. Et d'ailleurs, il me revient une citation, une phrase de lui, il disait aux Palestiniens, le jour où vous serez une nation, je partirai. Voilà. Et je pense que cette instabilité, enfin cette espèce de refus d'entrer dans les normes et d'entrer dans un collectif qui serait le collectif des dominants, c'est une caractéristique chez lui très très importante. Et ce qui est important, c'est dans son œuvre, c'est la question de l'instabilité, être d'un côté et pas de l'autre, et ne pas choisir, voilà, être entre les deux.
Alors pour ce qui concerne la question de la sexualité, ne pas choisir, c'est donc naviguer entre les genres.
Oui, naviguer entre les genres. Alors, ce qui est intéressant chez Genet, c'est la question de l'identification. Au fond, on se dit, en ouvrant par exemple Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre-Dame des fleurs, donc tous ces romans écrits en prison, on est frappé, moi la première, lorsque j'ai travaillé sur Genet, par la dimension très masculine, très virile de son œuvre. Et puis, en relisant les textes, on aperçoit que les voyous, que les voleurs, que les assassins ne sont pas si virils que ça. Et c'est là où le genre intervient et où devient passionnant, parce qu'il ne cesse de déconstruire. Il déconstruit avant la lettre.
Enfin, ils ont une image quand même de la virilité. Il y a beaucoup de muscles, par exemple. Il y a beaucoup d'une espèce de violence aussi qui ressemble quand même à ce qui définit la virilité.
C'est ça. Alors, c'est cette espèce de nécessaire identification à la virilité qui aussitôt est défaite par une phrase. Alors, je vais juste citer un passage que je trouve très intéressant dans Notre-Dame des Fleurs. C'est la suivante. C'est « Divine endossa le corps d'un mâle soudain forte et musclée. Elle se voyait dure comme fer, elle sentait enfin ses muscles, comme lors de son essai viril, lui pousser et se durcir aux omoplates, aux bras. » Voilà, donc elle est présentée à la fois comme une femme et comme un homme dur. Hein. Et puis j'emploie à dessein ce terme de dur, qui chez Genet désigne l'hyper marlou. Et une autre phrase qui est de Genet, toujours dans ce texte magnifique Notre-Dame des Fleurs, et qui est une clé à mon sens, « Je vous parlerai de divine au gré de mon humeur, mêlant le masculin et le féminin. »
Donc les personnages de Genet naviguent en effet entre les genres, mais Genet ne nie pas la différence sexuelle. Pour lui, il y a vraiment des hommes et des femmes.
Je crois que ça va au-delà de ça. Je crois qu'il annule la différence sexuelle. Il dit d'emblée, bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr qu'il y a des hommes, mais il y a aussi l'affinité, la masculinité, qui sont des signes de la sexuation qui sont complètement réversibles, qui bougent sans cesse. Et c'est dans ça que mon étude, Genet relu à la lumière des études de genre, peut être perçue comme quelque chose d'un petit peu... Comment dirais-je comment dit-on si vous voulez, Genet, il est avant-gardiste, voilà. Mm-hmm. C'est pas qu'il a inventé les études de genre, c'est pas ça, mais il a pensé, il a conceptualisé sans le dire.
Il a ressenti, en fait, peut-être, cette fluidité que des gens comme Judith Butler vont ensuite problématiser, théoriser.
Absolument. Genet est profondément et éminemment queer avant la lettre.
J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent qui jamais ne comprit mon amour contenu. Dans sa gondole noire, une amante inconnue, belle comme un navire, et morte en m'adorant. Toi, quand tu seras prêt, en armes pour le crime, masqué de cruauté, casqué de cheveux blonds.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors pour comprendre la question de la sexualité dans l'œuvre de Jean Genet, il faut peut-être revenir un tout petit peu sur sa biographie et redire quand même que ça a été un enfant sensible, délicat, qui a peut-être dû devenir dur parce que il lui a fallu cacher un certain nombre de gestes considérés peut-être comme trop féminins, que ce soit dans son enfance, mais peut-être pas seulement d'ailleurs dans son enfance et dans son adolescence, peut-être toujours finalement.
Genet, c'est un cas assez exceptionnel, c'est pas tout à fait le terme, mais il n'a jamais connu sa famille. Et ça, c'est un élément qui est important parce qu'il était profondément seul en définitive. Aucun regard pour le juger, une éducation qui est très sommaire, et il a dû se fabriquer seul. C'est un autodidacte.
Mais c'est aussi quelqu'un qui aimait, par exemple, se travestir. Oui. Il y a, dans le livre de Paul-Louis Astreau, Genet à 20 ans, une scène qu'il raconte au moment où, à Cadix, en 1934, un client d'un bar dans lequel Genet se produit en travesti, qui se prend les pieds dans sa robe de dentelle et qui, du coup, lui arrache la robe. Et Genet, donc, totalement humilié, il est très jeune aussi à ce moment-là, sort du bar sous les colibés, nous explique Paul-Louis Astreau. Et là, il aurait couru jusqu'à la mer et il aurait jeté dans la mer ses vêtements de femme. Et là, on peut peut-être y voir justement un sentiment d'humiliation qu'on va retrouver transposé dans son œuvre, Agnès Van Nouvenc. Et puis aussi, voilà, ce féminin qui existe en lui, mais qu'il ne peut pas réellement se permettre de montrer, si ce n'est en se mettant lui-même en marge.
C'est une scène qu'il reprend de façon spectaculaire dans un roman qui s'appelle « Journal du voleur ». Il met en scène un personnage qui s'appelle Jean, qui va à la rencontre d'un groupe de travestis qu'il appelle les Carolines. Et ces Carolines vont rendre un hommage au feu vespasienne dans les rues espagnoles, c'est-à-dire ces toilettes publiques autour desquelles elles se réunissaient, étaient réunies, pardon. Et Genet explique un peu plus loin. Sous la jupe, je garde mon pantalon. Mmh. Et effectivement, il est du côté de ces filles de la honte, c'est une expression qu'il emploie, filles de la honte, parce que il veut à tout prix faire partie, enfin être une figure, parce qu'il est à la base une figure de l'écart, donc être du côté des opprimés et ne jamais franchir un paravent qui serait l'autre dominant.
Comment ça se traduit dans les fictions? On pense évidemment à Divine, par exemple, au personnage de Divine.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est la façon dont l'écriture désarticule le genre, parce qu'au fond, c'est une écriture qui est épicène, mais une écriture qui déstabilise les frontières du genre. Le français, on le sait, c'est une langue très genrée, contrairement à l'anglais. Et Genet parvient très bien à briser, à casser. Et par exemple, Divine, elle parle d'elle à la fois au féminin et au masculin. Si on laisse de côté un peu les romans, et qu'on va du côté du théâtre, je pense à une pièce qui est très importante, qui est assez peu lue, qui est assez peu mise en scène, c'est Haute Surveillance, qu'il écrit.
Considéré comme étant pas sa meilleure, quand même.
Comment?
Qui n'est pas considéré comme étant parmi ses meilleures
non,
pièces.
Non, c'est vrai, mais c'est une pièce que moi j'aime beaucoup parce que c'est un peu le pendant des Bonnes. Un huis clos masculin entre trois hommes.
En prison.
En prison. Alors il se joue ici une sorte de théorème puisqu'ils sont en train de se désirer et puis de vouloir se tuer. Donc une pulsion de meurtre et puis de désir très fort. Et il y a ce personnage, yeux verts, que tout le monde voudrait être et que tout le monde voudrait tuer et puis, mmh. et puis prendre sa place. Les yeux verts, il a commis, c'est la figure du mal, quelque part, qui est terriblement beau. Il a commis ce crime, explique Genet, il a tué un enfant. Et lorsqu'il décrit son crime, alors je vous lis le passage parce que je l'ai trouvé aussi très intéressant par rapport à cette question du genre, il dit, pour sortir le corps, il parle de lui-même, hein, ils sont tous en prison, hein, pour sortir le corps, impossible, je tenais trop de place, mes mamelles étaient devenues énormes, visibles, j'étais mou, je n'osais pas sortir, j'avais changé de sexe, la rue, mes pieds. Voilà. Donc ici, on a vraiment toute la poésie, cette espèce de phrase longue, rythmée, qui est brisée par un syntagme plus court, la rue, mes pieds, point. Voilà. Là, on a toute la poésie, tout le style de Genet, qui nous montre que le genre aussi est quelque chose de très fluctuant, de très polymorphe.
Alors, c'est tellement fluctuant que les personnages, évidemment, de Genet se posent eux-mêmes la question. Écoutez, par exemple, ce qui se passe dans Querelle de Brest.
Dis donc, qu'est-ce qui te plaît ? Pourquoi que t'as envie de la patronne ? Explique-toi. Querelle éclata de rire en disant, avec un mouvement désinvolte de la tête et de façon que sa voix frappa n'importe quoi plutôt que le visage de non.
Parce qu'elle me plaît.
Dès cet instant, tous les détails du visage de Querelle enchantèrent Norbert. Ce n'était pas la première fois qu'un gars bien baraqué demandait la patronne afin de coucher avec le taulier. Une chose l'intriguait, savoir qui enfilerait l'autre. Ça va ? D'une poche de son veston, il sortit un dé. Tu fais, je fais.
Vas-y.
Norbert s'accroupit et joua sur le sol. Il sortit un 5. Querelle prit le dé. Il était sûr de son habileté. L'œil très exercé de Nono remarqua que Querelle allait tricher. Marie. Avant que d'avoir pu intervenir, le chiffre 2 était prononcé, presque victorieusement crié par le matelot. Ou... D'abord, il avait pensé que Querelle voulait s'envoyer la maîtresse de son frère. Cette fraude prouvait que non. Et le gars n'avait pas non plus l'air d'un pédé. Inquiet pourtant de la sollicitude que cette proie apportait à se perdre, il haussa légèrement une épaule en se relevant et ricana. Querelle se releva aussi. Il regarda autour de lui, amusé, souriant, encore qu'il éprouva la sensation intérieure de marcher au supplice. Il marchait avec dans l'âme le désespoir, mais aussi la certitude intime, inexprimée, que cette exécution était nécessaire à sa vie. En quoi serait-il transformé ? En enculé ? Il le pensa avec terreur. En quoi est-ce un enculé ? Quel monstre nouveau devient-on et quel sentiment de cette monstruosité ? On est cela quand on se livre à la police.
On va pas s'embrasser,
pensa-t-il. Et ceci encore...
Moi, je tends mon cul, c'est tout.
Quel corps nouveau serait le sien ?
Extrait de Querelle de Brest, lu par Guillaume Gallienne et Nicolas Bedos. Qu'est-ce que vous en retenez, Agnès Van Nouvent ?
Ce qui me fera beaucoup dans Querelle de Brest, dans le passage qu'on a écouté, c'est cette espèce de mise en scène, de dialectique constante entre l'actif et le passif. Voilà, ils sont voilà en train de s'enculer, de pas s'enculer, ils sont totalement réversibles, comme l'identité, comme les identités, comme le genre. Et c'est un jeu de rôle que chacun interprète. On s'en nettoie à tour mou, dur. Et je n'ai c'est ça, cette espèce d'impossible identification, c'est cette impossible fixité de l'identité. Hein.
Et il y a aussi la honte quand même de la position passive, parce que ils sont obligés de jouer au dé pour faire semblant de pas avoir à décider qui aurait quelle position dans l'amour. Et finalement, on entend que Rel exulte parce qu'il a perdu entre guillemets, c'est-à-dire que c'est lui qui aura la position du passif.
Il est absolument ravi, que Rel, absolument.
Mais alors ça pose une question quand même, parce que vous expliquez aussi dans votre essai que la position du passif peut être aussi assimilée à la position du dominé dans la société, et cela depuis l'Antiquité. Et en même temps, Genet nous explique bien que son personnage de Querelle, lui, la recherche, cette position de dominé d'une certaine façon, entre guillemets.
Oui, parce que finalement, quelque part, c'est confortable d'être dominé. On attend, le désir est là, et puis il y a tout un fantasme autour de ça. Genet, il est très influencé également par l'Antiquité, ça c'est pour le théâtre, là, le théâtre élisabéthain, c'est autre chose, on en parlera peut-être tout à l'heure.
On peut en dire un mot si vous voulez.
Oui, on s'éloigne un peu de la sexualité, mais pour parler un peu plus du genre, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne sont pas très très très, très loin. Son théâtre met en scène également cette question du genre et de la sexualité. Et c'est pas un hasard parce qu'il est totalement nourri des références du théâtre élisabéthain, du théâtre antique, mais aussi du théâtre japonais, le théâtre Noé Kabuki, qui également joue de cette question de la frontière ténue entre le genre. Pour revenir à votre question, cette question de l'actif, passif et du dominé-dominant, elle est impossible à annuler parce que il est toujours en train d'annuler la dialectique. La dialectique chez Genet est absolument intenable.
Mmh. Donc il y a un travail de critique aussi des normes qui est très visible là, de toutes les normes et dans tous les domaines, mais ça s'incarne beaucoup dans la question sexuelle.
Oui, alors je parlais tout à l'heure de sa naissance, de sa trajectoire de vie. Et, c'est important de rappeler aussi cet élément parce que évidemment, Genet ne serait pas l'écrivain qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas vécu cette vie-là, c'est évident. Et cette mise à l'écart, elle détermine également tout son intérêt autour du mal. Alors j'emploie ce terme à dessein. Bataille l'a très bien commenté dans La littérature et le mal. La question de la mort également est très présente parce qu'autour de ce couple Eros et Thanatos, il y a le désir de tuer, le désir de vivre également. Et la blessure amoureuse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver également. Cette question de la perforation dans Querelle de Brest que vous avez, qu'on a entendu tout à l'heure, elle est essentielle. Le trou, il est constant. Il est présent dans son film Un chant d'amour. Les prisonniers échangent de la fumée entre les parois de la prison. Il est présent dans Le balcon. Je pense à cette pièce qui parle du pouvoir également, parce qu'évidemment, de quoi est-il question tout ça ? Il est question de la domination. Il est question de c'est un théâtre, c'est une œuvre qui est éminemment politique.
Et les paravents est une œuvre évidemment très politique, dans laquelle il y a aussi un bordel, et qui parle de la question coloniale. Et il y a toute une partie, tout un développement dans votre essai, Agnès Van Nouvang, sur le rapport de Genet, rapport érotique de Genet avec la figure de l'homme arabe. Je vous propose d'écouter justement un texte, un extrait de 4 heures à Chatila, et puis après vous nous parlerez de ça.
Tout, tous, sous les arbres, étaient frémissants, rieurs, émerveillés par une vie si nouvelle pour tous, aussi pour moi. Et dans ces frémissements, quelque chose d'étrangement fixe, aux aguets réservés, protégé comme quelqu'un qui épie sans rien dire. Tous étaient à tous. Chacun était en lui-même, non sous, mais seul. Et peut-être non. En somme, souriant et hagard. Les jeunes soldats entretenaient leurs armes presque amoureusement, avec une graisse si transparente qu'il m'était difficile de ne pas songer à un enduit de vaseline. Tout donnait à penser qu'ils étaient amoureux du fusil.
Une lecture par Richard Leduc, Agnès Van Nouvang. Que nous dit pour vous la fascination et l'attirance physique de Genet pour la figure de l'homme arabe en particulier ?
en écoutant La Langue est magnifique. On ne se lasse pas d'écouter Genet, de le lire. Alors Genet, il est très intéressant aussi de le lire à la lumière des études postcoloniales. Les études, ce qu'on appelle les études intersectionnelles, qui met en perspective comme ça la question d'identité, du genre, de la sexualité et puis de la multiculturalité. Genet, c'est l'écrivain de l'ambiguïté. Mais pas que sexuelle, l'ambiguïté tout court. Et ce qui est intéressant avec cet exemple que vous évoquez, c'est cette espèce d'affirmation totale. Oui, j'aime les Arabes. Oui, j'étais légionnaire. Oui, je suis partie à Damas pour être légionnaire, mais aussi pour rencontrer des hommes. Et oui, je défends les Palestiniens. Et en même temps, je ne suis pas comme eux. Voilà, c'est cette ambiguïté constante qu'on retrouve dans son œuvre.
Ça veut dire quoi, je ne suis pas comme eux?
Je suis pas comme eux, je fais pas partie de cette minorité, ni de cette majorité. Je défends l'opprimé, mais comme il le disait, le jour où vous serez une nation, je ne serai plus de votre côté.
Donc une fois que vous ne serez plus opprimé, en gros, ce sera plus tellement intéressant pour moi.
Oui, alors c'est une posture, et puis mais je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir surtout c'est la dimension poétique évidemment, mais la dimension politique parce qu'au fond bon tout ça on parle du désir, mais la dernière partie de Genet, c'est-à-dire les années 60, 80, il est mort en 86, est marquée par une écriture, enfin son intérêt est politique, il s'intéresse aux Black Panthers, aux Palestiniens, il écrit beaucoup sur cette question et il les défend. Voilà, il les défend. C'est un intérêt qui est très personnel, qui est très érotique, qui est très fantasmatique et qui est politique, parce que tout est politique au fond.
Alors vous avez parlé des post-colonial studies, des études post-coloniales, et évidemment aussi de la théorie queer. Vous avez souligné à quel point on avait l'impression d'une espèce de préscience de Genet sur tous les développements intellectuels de l'université qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connu d'abord par la French Theory, puis par l'université américaine. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez au fond qu'il soit si actuel? Est-ce que c'est parce que des gens comme Foucault, comme Derrida l'ont lu aussi? Est-ce que vous pouvez, ébaucher une explication en tous les cas?
Oui, alors il faut un petit peu contextualiser cette question pour la comprendre. Vous parlez de Foucault, vous parlez de Derrida, de Deleuze, de Barthes, et ce sont effectivement des penseurs qui ont fabriqué la French Theory, la pensée française, enfin la théorie française. C'est comme ça que les universités américaines nomment ce courant théorique. Il se passait tellement de choses durant ces années-là, c'était vraiment un laboratoire d'idées qui est très très importante, une histoire des idées très puissante. Moi, j'aurais adoré vivre dans les années 70 parce qu'il y avait des choses tout à fait fortes qui se disaient, qui se fabriquaient. Et Genet était à la croisée de tout ça. Il était son
œuvre. Mais est-ce qu'il était théoricien lui-même? Parce qu'il aurait voulu être théoricien. Il se mettait peut-être même en compétition avec un certain nombre de penseurs comme Sartre, par exemple.
Oui. Bon, alors, je crois pas. Je crois absolument pas qu'il... Enfin, c'est mon avis, hein. Je pense qu'il n'était pas théoricien du tout. Il a écrit des essais, effectivement, mais il avait surtout cette capacité formidable de fictionnaliser des questions théoriques complexes. Et c'est en ça qu'il est passionnant. Et qu'on peut le relire à la lumière, vraiment, des études de genre. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est totalement irrécupérable. On ne peut pas, il a toujours refusé qu'on lui assigne une identité, et les études de genre, moi, cette étude que j'ai écrite, ne permet nullement de dire « Genet est queer », parce qu'on peut dire aussi qu'il n'est absolument pas queer.
Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas queer?
Alors je préférais que vous me demandiez pourquoi il est queer.
C'était moins original.
Non, je pense qu'il a, c'est un précurseur vraiment de ces questions de déconstruction, parce qu'au fond, ce qui l'intéressait, lui, c'était cette grande question du devenir sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que la sexualité? Et et comment je vais mettre en fiction tout ça.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est que, et peut-être aussi parce que précisément il a écrit sans filtre ses romans, il couche sur le papier, de manière poétique évidemment, quelque chose qu'il ressent très profondément, un peu comme il ferait une psychanalyse d'une certaine façon, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de théories peuvent se greffer sur cette œuvre, parce que c'est un matériau qui est un matériau brut. Il a lu Freud d'ailleurs, Genet, c'est quelqu'un qui connaissait l'œuvre de Freud.
Oui, absolument. Je suis pas très expert. J'ai consacré un tout petit chapitre dans mon livre. Je suis pas très experte sur la question, mais.
En tout cas, ça vous semble une possibilité
oui,
que de dire que son œuvre passe directement du filtre de l'inconscient, enfin n'est pas filtrée justement et passe directement depuis l'inconscient.
Complètement. D'ailleurs, tout ce qui met en scène toute cette question du mal dont vous allez parler avec Evangèle Banca, elle est nourrie par ça, cette pulsion du meurtre. La question du crime et de l'assassin, elle est essentielle. Journal du voleur, le début, enfin le livre est dédié à Wedman, ce jeune assassin, qui était auréolé d'un érotisme qu'on retrouve avec la figure de l'arabe.
Ouais. Allez Agnès Van Nouvang, on va continuer à parler de Genet avec vous en deuxième partie de cette émission, sous l'angle cette fois de son rapport avec les arts plastiques. Ce sera juste après la chronique de Michel Crépu.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.